faut-il taxer les ultra-riches, Oisic ?
Eh bien, le Sénat français a rejeté en juin une proposition de loi instaurant un impôt minimum sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, inspiré par les travaux de l'économiste Gabriel Zucman. Alors, face à cette fin de non-recevoir, Joseph Stiglitz, attention, je déroule le CV, professeur d'économie à l'Université Columbia New York, prix Nobel d'économie en 2001, puis prix Nobel de la paix en 2007 avec les autres auteurs du GIEC, conseiller du président Bill Clinton, puis économiste en chef de la Banque mondiale, vient en renfort de notre économiste national dans une tribune au Monde et dans un entretien dans Libération.
Un des problèmes de la taxe Zucman était d'intégrer les biens professionnels dans le calcul de l'impôt. Cela va-t-il pas en effet nuire aux entreprises ?
Eh bien, paradoxalement, non, Margot. Parce que l'impôt sur l'ensemble de la fortune est la solution pour imposer des rendements de plus-value qui ne sont pas encaissés et donc pas imposés. Et exclure les biens professionnels serait donc injuste parce que cela permettrait donc aux particuliers ordinaires d'être taxés quand ils achètent des actions, mais pas les personnes très riches qui possèdent les entreprises. Alors cela encouragerait également la richesse dissimulée parce que, ne nous affolons pas, hein, les ultra-riches sont aussi les rois de l'optimisation, voire de la dissimulation fiscale, évidemment grâce à l'armée de juristes d'affaires qu'ils rémunèrent grassement, au lieu de rémunérer l'État. Et puis, c'est surtout via les bénéfices des sociétés que les ultra-riches détiennent ce qu'ils ont comme revenus. Et donc ce qui fait que selon les études du très sérieux Centre de recherche en économie et en statistique, alors que le taux moyen de prélèvement obligatoire se situe en France à hauteur de 42%, celui des 1800 foyers les plus riches en France se situe vers 26%.
Mais alors, est-ce qu'on connaît vraiment le patrimoine des plus fortunés ?
Eh bien, figurez-vous que non. L'INSEE reste complètement aveugle sur l'ultra-richesse et sur les patrimoines professionnels et financiers. Alors même que ces deux patrimoines constituent l'essentiel de la richesse des plus fortunés. Et donc, face à ce problème, Stiglitz propose de faire ce que tous les pays font lors des successions, évaluer le montant total des patrimoines. Et puis évidemment, gare à ceux qui déclareraient un montant sous-estimé. Parce qu'à ce moment-là, il suffit de donner à l'État, tenez-vous bien, la possibilité de préempter ce patrimoine bradé, nous dit Stiglitz, et là, plus de braderie. Et si votre fortune consiste en parts d'entreprise, donc si vous n'avez pas de liquide sur votre compte pour vous acquitter de votre contribution sociale, eh bien là encore, notre prix Nobel propose la solution hyper simple de l'emprunt bancaire que les ultra-riches rembourseraient, comme nous-mêmes, nous payons de l'impôt mensuellement. Et pas bête, hein, finalement.
Et le risque de l'exil fiscal, alors ?
Alors ça, c'est l'exit tax qu'il faut dégainer. Faisons comme la Norvège, l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Portugal. Taxons les fuyards à hauteur de ce que serait leur impôt s'ils n'avaient pas quitté le pays. Zucman propose 10 ans, hein, comme s'il restait pendant 10 ans encore dans le pays. Et d'ailleurs, Piketty avait déjà montré en son temps que l'ISF n'avait incité que très peu de milliardaires à jouer les migrants en jet privé.
Mais la France ne prendrait-elle pas un risque trop grand à être la seule à instaurer un tel impôt ?
Mais la France ne serait pas du tout la seule, Margot. La Norvège, l'Espagne et même la très discrète Suisse ont déjà des impôts de ce type.
Et si rien n'est fait, que se passera-t-il ?
Eh bien là, notre cher économiste n'y va pas de main morte. Car nous dit-il, de manière évidente, je cite, la France a créé des oligarques. Et ces oligarques deviennent de plus en plus ouvertement engagés politiquement, c'est toujours lui qui le dit. Comme aux États-Unis, ils se mettent en avant pour obtenir des faveurs. Finalement, un retour aux privilèges de l'ancien régime. Alors, pour lui, rejeter une proposition équitable, contraignant l'oligarchie, est la preuve même du pouvoir de cette oligarchie, et cela sape la cohésion sociale. Donc au final, avec la taxe Zucman, la France a donc deux solutions pour pallier ses difficultés financières. D'une part, combler les failles qui permettent à des personnes qui devraient payer l'impôt de ne pas le faire. Cette faille-là. Et d'autre part, de taxer ceux qui sont les plus à même de payer. Et même si la taxe Zucman ne résorbe pas tout le déficit, elle est un grand pas en avant pour y parvenir. Parce qu'elle montre au marché dont on nous rebat les oreilles qu'ils font la pluie et le beau temps, et à l'Union européenne qui, ne l'oublions pas, nous botte les fesses pour combler notre fameux déficit, que la France prend le problème à bras le corps. Et en même temps, elle donne un signal de justice sociale aux contribuables. Alors Alexis de Tocqueville, déjà au début du 19e siècle, analysait déjà que l'impôt avait pour objet non d'atteindre les plus capables de le payer, mais le plus incapable de s'en défendre. Et sur ce point, je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup évolué. Mais ceci dit, je ne m'inquiète pas trop, Margot, parce que quand on voit le budget qui a été dévoilé hier, eh bien la taxe Zucman a bel et bien été oubliée. Les très riches peuvent donc dormir en paix.
Et alors, peut-être quelques mots sur le prix Nobel d'économie, choisi.
Oui, le prix Nobel d'économie qui va faire que les très riches vont encore plus pouvoir dormir en paix, parce que Philippe Aguillon, donc un théoricien de la destruction créatrice dont j'ai parlé il y a 15 jours, c'est-à-dire un économiste optimiste qui nous dit qu'avec le progrès technique, la croissance est infinie, eh bien ce même économiste est absolument contre la taxe Zucman. Comme je suis mauvaise langue, je dirais qu'on n'oubliera pas qu'il est lui-même descendant d'industrie. En l'occurrence, la marque Chloé. Bonne journée.